Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux pour cette nouvelle édition du journal sur Radio Okapi. Sans plus tarder, voici les titres. Washington acte la paix entre Kigali et Kinshasa. Sous médiation américaine, un accord historique suscite espoir et impatience. Les Congolais veulent des résultats rapides, mais la ministre Thérèse Kayikwamba prévient la paix s'est construite et cela prend du temps. Ses propos dans un instant dans ce journal. Kananga alerte sur la voie ferrée, un ravin progresse dangereusement. Le projet de résilience urbaine est à l'arrêt. La population sollicite une action urgente des autorités pour sécuriser l'infrastructure ferroviaire. ENA, plus de 11 000 candidats pour intégrer la 10e promotion. Invité de ce journal, Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, explique les enjeux de ce concours pour rajeunir la fonction publique et promouvoir la méritocratie. Ses explications dans un instant. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle qui secoue encore les esprits ici comme ailleurs. Hier, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique. Oui, un accord qui pourrait changer le cours des événements dans la région du Grand Lac. Sous la médiation américaine, les deux présidents ont apposé leur signature ouvrant la voie à un espoir immense, mais aussi à des grandes attentes. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner le reconnaît, les Congolais veulent des résultats rapides. Pourtant, elle prévient, la paix ne s'impose pas, elle s'est construite et cela prend du temps. Elle s'exprimait hier lors d'un briefing de presse à Washington aux côtés des ministres de l'économie, de la communication et des médias, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale impliqué comme expert dans ces négociations. Écoutons Thérèse Kayikwamba Wagner au micro d'Alain Irung, envoyé spécial de Radio Okapi à Washington.
Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs, et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur.
En lien avec l'accord de paix signé à Washington, direction Beni, où les réactions sont partagées. Au lendemain de cet enterrement, certains y voient un signe d'espoir pour un retour à la paix dans l'est du pays. Mais la majorité des personnes interrogées ce matin restent sceptiques quant à la possibilité d'une paix durable dans cette région meurtrie. Écoutez les avis contrastés dans ce Vox Pop réalisé par Marc Marofimbo.
Aucun espoir pour nous parce que nous pensons que la paix n'est pas seulement le silence des armées. Tant que les gens qui gouvernent le pays n'auront pas un sens patriotique, tant qu'on continuera à payer l'eau la plus chère au monde, les courants les plus chers au monde, il n'y a pas de route, il n'y a pas de soins de santé garantis, il n'y aura pas la paix. Ces individus qui nous gouvernent au-delà de Washington, au-delà du M23, doivent savoir qu'ils ont un pays à développer, une population à servir.
Pour nous, c'est déjà une très bonne chose de voir déjà les deux chefs de l'État à Washington pour entériner l'accord qui a été signé a fait plus de 20 ans dans des situations de guerre. Et cette fois-là, c'est pour mettre définitivement à cette insécurité qui a trop duré. Et pour nous, c'est très encourageant.
Au-delà de Washington et du Doha, qu'il faut un tribunal spécial pour la RDC. Et cela, ça pourra soulager les âmes blessées, les frères perdus, les sœurs massacrés et autres.
On s'est dit, est-ce que les gens de Kinshasa ont la réalité sur le terrain? Est-ce que Washington, avec Trump, est-ce qu'ils connaissent la réalité sur le terrain? Nous pensons que les deux parties ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'inquiétudes.
Autre réaction importante, celle de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle salue l'entérinement de l'accord conclu entre Kinshasa et Kigali et rend hommage aux deux chefs d'État pour leur détermination politique en faveur de la paix et de la coopération régionale. Pour la mission onusienne, cet accord combiné à celui de Doha entre la RDC et le M23 AFC ainsi qu'à la résolution 2773 ouvre une véritable opportunité, passer des conflits aux solutions politiques, mais elle insiste la mise en œuvre de ce texte dans le respect de l'intégrité territoriale de chaque État et avec un dialogue continu à l'interne sera la clé pour consolider la paix au profit des populations. On écoute la porte-parole de la MONUSCO, Kadi Lo, dans cet extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
La MONUSCO considère que les accords conclus ouvrent une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rétablir la confiance entre les deux pays pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et contribuer à libérer le potentiel économique de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ces accords, conjugués à l'accord cadre signé entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 et à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, offrent une opportunité pour passer de la confrontation à des solutions politiques. Leur mise en œuvre de bonne foi et dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région sera essentielle pour parvenir à une paix durable. La MONUSCO souligne que ces efforts doivent favoriser la stabilité tout en garantissant la protection des civils et le respect des droits de l'homme. Un dialogue continu, des mesures de décrispation et des approches inclusives au niveau national et local seront déterminants pour instaurer la confiance, réduire les tensions et consolider la paix au bénéfice de toutes les communautés affectées par le conflit.
Autre information à retenir, le projet de loi sur les jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale lors de la plénière de ce jeudi, défendu par la vice-ministre des Finances Grace Yamba. Ce texte marque, selon elle, une étape cruciale vers la modernisation et la régulation d'un secteur en pleine expansion. Un débat qui intervient alors que les jeux des hasards, notamment le pari sportif, connaît c'est un essor considérable à travers le pays. Le point avec Grace Hamzati.
À en croire Grace Yamba, ce secteur a connu une expansion rapide et une prolifération significative ces dernières années. Cette croissance a entraîné divers défis économiques et sociaux nécessitant une réponse législative appropriée. En effet, le cadre légal actuellement en vigueur, sous-tendu essentiellement par l'arrêté du gouverneur général du 19 janvier 1901 sur les jeux des hasards, le décret du 17 août 1927 sur les loteries ainsi que l'ordonnance législative du 16 mai 1951 portant interdiction des concours, des pronostics sportifs et autres n'est plus en phase avec l'expansion ainsi que les enjeux modernes du secteur des jeux d'argent et des hasards. La vice-ministre des Finances insiste cependant sur la protection des personnes vulnérables dont les enfants impliqués dans ces jeux.
Le texte renforce l'interdiction stricte de l'accès des mineurs aux jeux conformément aux articles 44 et 45 du projet de loi, lesquels prohibent de manière absolue la participation des personnes âgées de moins de 18 ans.
Après débat, ces projets de loi et trois autres, dont le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle et celui relatif au marché boursier en RDC, ont été transmis aux commissions permanentes concernées qui ont un délai de 5 jours pour un examen approfondi.
Autre fait marquant dans ce journal, à Kananga, la voie ferrée est menacée par un gigantesque ravin dont la commune de Lukonga, quartier Mabondo, localité Basongila. Le projet d'urgence et de résilience urbaine avait entamé des travaux pour stopper la progression, mais ces travaux sont aujourd'hui à l'arrêt et le ravin gagne de terrain chaque jour, inquiète la population riveraine, appelle les autorités à une intervention urgente pour éviter le pire. Le détail dans ce reportage signé André Katendinga Lamouloumé.
C'est depuis maintenant 6 mois que les travaux sur ces ravins sont aux arrêts. Luteke Kabongo, habitant du quartier Mabondo qui nous livre l'information, indique qu'à chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandissent. Il est déjà à 2 mètres de la voie ferrée et risque de couper le chemin de fer ainsi que la nationale numéro 41 à 6 niveaux. Les ménages qui vivent à côté du ravin sont aussi en danger. Martine Tchiela, mère de 8 enfants, souligne qu'avec les pluies abondantes sur la ville, sa maison risque de tomber dans ces ravins. Elle en appelle à une intervention urgente des autorités.
À chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandissent, surtout du côté où nous sommes. Un jour, la maison peut tomber dans les ravins et nous apporter les malheurs. Nous invitons les autorités à remblayer les ravins pour nous épargner du danger.
Du côté Purique, Solange Mwindia Aminata, spécialiste en communication, fait savoir que les travaux qui étaient amorcés sur ces ravins étaient conservatoires. Elle rassure de la reprise imminente des travaux de lutte anti-érosive par l'entreprise chinoise China Fest qui est en train d'installer sa base vue. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Kapi.
À Goma, en Nord Kivu, la vie de nombreuses personnes vivant avec le VIH est en danger, en cause une rupture critique des stocks de médicaments indispensables à leur traitement. L'alerte est lancée par l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, ICOP+. Cette pénurie menace la continuité de soins, augmentant non seulement le risque de mortalité, mais aussi celui de transmission du virus dans la communauté. Rosalie Zawadi fait le point.
La situation est particulièrement critique pour les personnes qui souffrent de la double infection, la tuberculose et les VIH. Ce sont elles, ces personnes adultes co-infectées, qui sont aujourd'hui les plus exposées. Jimmy Basila, responsable du suivi à l'UCOP+, ne cache pas son inquiétude. Pour lui, sans intervention rapide, la pénurie des médicaments risque de leur être fatale.
Il y a des ruptures des médicaments tels que les antituberculés pour les co-infectés. C'est une PVVIH qui a à la fois la tuberculose et le virus du VIH. On risque d'enterrer beaucoup. Il y a aussi le manque de tests. Beaucoup de gens veulent faire le dépistage volontaire, mais il n'y a pas de tests à l'hôpital. Il y a aussi les ARV pédiatriques.
Face à cette urgence, l'UCOP+ demande aux acteurs intervenant dans ces secteurs de rendre les médicaments disponibles pour sauver les vies de ces personnes. Pour sa part, l'ONU-SIDA rappelle que dans les contextes actuels des crises de financement, les pays devraient s'impliquer davantage dans la lutte contre le VIH pour espérer mettre fin à l'épidémie du SIDA d'ici 2030. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'hôpital général de Samba, situé dans les territoires de Kasongo, tire la sonnette d'alarme. L'établissement fait face à un grave déficit d'infrastructures et de services essentiels. Manque de lits, bâtiments inadéquats, absence d'unités de réanimation et d'imagerie, autant de carences qui limitent la capacité à offrir de soins complets à la population. Le médecin directeur, docteur Cédric Mbouyous, appelle à une intervention urgente pour remédier à cette situation critique. Il a été joint par Kawaya Masimango Kama.
Nous à Samba, nous avons 46 lits pour l'hospitalisation de nos malades. Parfois, vous pouvez avoir 30 ou 40 malades hospitalisés. Il y a les malades qui prennent même leur matelas à la maison et viennent avec ça à l'hôpital. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a un besoin et des lits et des matelas dans notre hôpital. Nos bâtiments que nous avons, ce sont des petits bâtiments. Aucun bâtiment du gouvernement. Si nous regardons aussi les services que compte un hôpital général, ici chez nous, il y a manque peut-être de 3 ou 4 services. Il n'y a pas les services d'imagerie, il n'y a pas les services de réanimation, il n'y a pas les services des réadaptations, même les services que nous avons aujourd'hui, ce sont des services vraiment leur capacité réduite.
Actualité internationale.
L'administration Trump a publié ce vendredi un document de 33 pages présentant sa nouvelle stratégie de défense nationale. Ce texte évoque un risque d'effacement civilisationnel en Europe et appelle à restaurer la suprématie américaine en Amérique latine et affirme que l'ère de migration de masse doit prendre fin. Selon le document, si les tendances actuelles se poursuivent, le continent européen sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. Il prévoit un réajustement de la présence militaire américaine afin de répondre aux menaces jugées prioritaires sur le continent américain, tout en réduisant l'engagement dans des zones dont l'importance stratégique a diminué. Concernant l'immigration, Washington estime que la sécurité des frontières est la clé de la sécurité nationale. Le texte insiste sur la nécessité de protéger le pays contre les invasions, qu'il s'agisse des migrations incontrôlées ou des menaces transfrontalières telles que les terrorismes, le trafic de drogue, l'espionnage et la traite des êtres humains.
L'invité.
Le 30 novembre dernier, ils étaient 11 313 candidats, dont 2 715 femmes à composer l'épreuve écrite pour intégrer la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA à travers le pays. Invité de Radio Okapi, le directeur général de cet établissement public, Tombola Mouké, précise que ce recrutement vise à rajeunir la fonction publique en misant sur la méritocratie. Il exprime sa gratitude au gouvernement pour la mobilisation des fonds, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet examen national. Tombola Mouké répond aux questions de Blaise Ondongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour cher Blaise.
Quelles sont vos impressions en ces jours où l'École nationale d'administration vient de lancer l'épreuve écrite du concours de recrutement de sa 10e promotion?
Je pense qu'il faut saluer l'effort qui a été fourni dans le cadre de l'organisation de cette épreuve écrite. C'est une logistique impressionnante. L'épreuve organisée au même moment à Kinshasa et dans tous les chefs-lieux de province, donc 25 chefs-lieux. Derrière, il y a des moyens financiers, derrière, il y a une volonté politique. Donc, je voudrais commencer par souligner la volonté politique qui a présidé à l'effectivité du lancement de l'épreuve écrite du concours de recrutement de la 10e promotion de l'ENA. RDC, en particulier la volonté de la plus haute autorité, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ensuite du gouvernement à travers Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, ministre de la Fonction Publique. Il faut saluer l'effort parce que en dépit du contexte institutionnel qui est difficile, du contexte des finances publiques qui est difficile aussi, mais le gouvernement a tenu bon. Après un report, parce que initialement l'épreuve écrite devait être organisée en septembre, mais finalement tout a été mis en œuvre en termes de moyens financiers, de moyens logistiques, des moyens humains pour que cette épreuve écrite s'organise aujourd'hui. Et donc,
combien de candidats au total prennent part à cet examen?
11 313 exactement sur l'ensemble du territoire national. On avait reçu 22 426 candidatures au total après traitement, donc après avoir appliqué les critères qui étaient communiqués aux candidats. 11 313 ont été retenus, dont 24% de femmes, dont une grande majorité à Kinshasa. Kinshasa, c'est quand même 7274 candidats qui sont répartis sur deux sites, comme vous l'avez vu ici à l'UPC. Ils sont dans 25 salles. Puis, à la Haute École de Commerce, ex-IEC, où nous avons 35 salles. Donc, au total, 60 salles seulement pour la ville de Kinshasa. Puis, les autres sont répartis sur l'ensemble du territoire national.
À quand la prochaine étape, l'étape de l'examen oral?
En tout cas, tout est mis en œuvre pour que le processus se termine en fin janvier, de sorte que la nouvelle promotion commence la scolarité en février. Et on va s'y tenir. Après le pré-écrit, c'est le pré-oral. Évidemment, il y a une période de correction. La correction pendant quelques semaines. Les candidats qui seront retenus à l'issue de cette étape seront convoqués pour les prévoir orales. Il y aura un jury oral et après il y aura une cérémonie d'entrée, une cérémonie couplée, sortie de la 9e promotion qui a terminé, puis entrée de la 10e qui habituellement est présidée par la plus haute autorité du pays, viendra la scolarité, début de la scolarité.
Comment réagissez-vous par rapport à certains experts qui estiment qu'il faut revoir à la hausse les nombres des candidats à retenir pour une année à l'ENA?
Je pense que cela dépend du patron de ressources humaines, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, on va dire du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit exprimer les besoins, qui définit le nombre de places, et puis en fonction de ce nombre de places, nous on organise le recrutement. Ça c'est d'une part. D'autre part, il y a nous aussi comme ENA qui devons nous mettre à l'échelle en termes de capacité d'accueil. Ces deux conditions mises ensemble devrait permettre prochainement d'accueillir un peu plus que 100 si tels étaient les besoins du gouvernement.
Avez-vous un petit message à lancer d'abord aux candidats, à tous ceux qui prennent part à cette épreuve?
Bon, alors le personnel d'appoint, le personnel qui est en charge de la supervision, de la coordination, a bas un travail difficile. Il faut saluer le travail qu'ils font. Donc je voudrais ici leur exprimer mes mots de félicitations, parce que visiblement, comme vous l'avez constaté, l'épreuve écrite s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Vous avez pu l'observer, les carnets d'examen porter déjà le nom des candidats. Ça, c'est aussi grâce à l'application mobile qu'on a lancée récemment, MyENA, qui a permis de dématérialiser le processus. C'est un processus très transparent. Je pense que l'autorité l'a expliqué ici. Le processus de correction est transparent, objectif, rigoureux, en double aveugle.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
Merci.
C'était Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration. Il s'exprimait sur le recrutement de la 10e promotion de l'ENA et ses enjeux pour la fonction publique au micro de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de cette édition des 18h sur Radio Capi, à la mise en onde de Pierre Diassinois. Présentation assurée par Gisèle Cage sous la coordination de Jude Mister Bilonda. Merci de votre fidélité. Pour ne rien manquer de l'actualité, suivez-nous en temps réel sur nos réseaux sociaux ou rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Radio Capi.